Hello, c'est Cédric pour un nouvel épisode du journal de bord d'un dirigeant. Aujourd'hui, je vais te parler de vendre sa boîte. Je vais me baser sur des expériences que j'ai eues plus ou moins récemment où on m'a proposé de racheter ma boîte et où j'ai refusé. En fait, ce qui m'a donné envie de faire un sujet là-dessus, c'est une discussion que j'ai eue dans le ciel. On avait fait un live sur la reprise d'entreprise, où j'avais justement proposé ma méthode pour reprendre des entreprises, puisque tu sais que moi je l'ai fait plusieurs fois. Il n'y a pas si longtemps que ça. D'ailleurs, il y a 2 ans, j'ai racheté une entreprise supplémentaire. Et puis on a aussi racheté avec ma chérie, on a racheté aussi un restaurant. C'est pour ça que désormais je travaille le dimanche. On est dimanche d'ailleurs. Et donc bref, on a eu pas mal de conversations dans le ciel sur la reprise d'entreprise, mais aussi sur la vente d'entreprise, parce que je dis souvent il faut gérer sa boîte comme si on pouvait la vendre le lendemain. Et pourtant je l'ai pas vendue moi le lendemain. Donc je vais t'expliquer pourquoi. Alors avant, je voulais te parler du ciel. On recrute à nouveau sur le ciel. Donc le ciel, c'est quoi? C'est le cercle indépendant des entrepreneurs libérés, CIEL. Et en fait, c'est un groupe d'entrepreneurs que j'ai constitué et dont l'envie, c'est d'évoluer rapidement dans 3 domaines. Évidemment, le premier domaine, c'est le management. Si tu as du mal avec ton management, si tu as des difficultés à organiser ton management, à mener tes équipes, à faire monter tes managers ou à trouver des managers, etc. Donc, premier volet, le management. Deuxième sujet qu'on traite, c'est travailler sur sa boîte plutôt que dans sa boîte. Si t'es quelqu'un qui est en permanence à l'intérieur de ta boîte, qui est un gros contributeur pour ta boîte et que tu ressens le besoin de prendre du recul et d'être plus à un niveau stratégique sur ta boîte. Bon, moi, je pense que c'est indispensable, hein, quelle que soit la taille de boîte, mais d'autant plus quand t'as envie de faire un peu de croissance ou de renforcer ta boîte, il faut vraiment monter à un niveau stratégique. Donc, on a une méthode pour ça. Et puis, troisième niveau, c'est rendre ta boîte antifragile. C'est-à-dire que si t'as une entreprise qui a du mal à chaque fois qu'il y a une crise, ou si tu es angoissé par rapport aux crises ou aux évolutions de ton marché, etc., on va te proposer un tas de manières de rendre ton entreprise plus antifragile. Donc, plus antifragile, ça veut dire, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire une entreprise qui profite des crises plutôt que d'être affaiblie par les crises. C'est-à-dire une entreprise qui est en évolution constante par rapport à son environnement. Donc, si ça t'intéresse de nous rejoindre, c'est une formule sur abonnement. C'est moins cher que la plupart des clubs d'entrepreneurs que je connais. C'est uniquement en digital, donc il n'y a pas besoin de se rendre sur un lieu en particulier. On y pense hein, de temps en temps à faire des événements physiques, mais on l'a pas fait encore. Mais en tout cas, voilà, le principe aujourd'hui, c'est que c'est en digital. On fait un live une fois par mois, donc ça prend pas trop de temps. C'est soit moi, soit Adélie ou soit un expert qui animons le live. Et il y a un réseau de communication, on est sur une plateforme Circle qui permet d'échanger des informations avec d'autres chefs d'entreprise. On a un podcast interne, c'est-à-dire qui est pas public, où on va parler vraiment de choses qui concernent uniquement les entrepreneurs, les chefs d'entreprise. Et on aura aussi le replay audio de tous les lives. Et on fait des groupes de pairs. Un groupe de pairs, c'est... tu as une problématique et tu as un rendez-vous avec d'autres chefs d'entreprise qui vont t'aider à résoudre ta problématique. Ça fonctionne super bien. On a des membres, je crois que je sais plus, mais voilà, on a des membres depuis très longtemps. J'ai peur de dire une bêtise, je croyais avoir le chiffre en tête, mais je l'ai pas. Mais bref, c'est vraiment esprit outil du manager, c'est bienveillant. Tout ce qui s'échange dans le cercle, c'est confidentiel. Et voilà, on a plein de gens qui ont vachement progressé, évolué grâce au ciel. Donc, si tu ressens ce besoin et si tu trouves que ce que je dis dans les podcasts, ça correspond bien à ta manière de gérer une entreprise, n'hésite pas à nous rejoindre. Pour ça, tu fais une demande à Adélie en utilisant son adresse mail Adélie Adelie @outildumanager.com ou tu me l'envoies à moi, cédric@outildumanager.com et on t'expliquera comment faire pour rentrer dans le ciel. Et à nouveau, je te dis, on recrute en ce moment, on recherche de nouveaux chefs d'entreprise pour augmenter et puis diversifier un petit peu les personnes qu'on a dans le groupe. Bref, je reviens au sujet du jour, vendre sa boîte. Donc je te disais que plusieurs fois dans ma vie, j'ai eu l'occasion de vendre ma boîte, et à ce jour, j'ai toujours refusé. Et pourtant, un truc que je dis souvent, et j'en parle dans le ciel, je te le disais, c'est dirige ta boîte comme si tu devais la vendre demain. C'est aussi ce que je dis dans la formation L'Entrepreneur Libéré, gère ta boîte comme si tu devais la vendre demain. Alors, d'abord, et je vais t'expliquer le paradoxe. Donc, premièrement, je vais t'expliquer pourquoi je répète que il faut diriger sa boîte comme si on devait la vendre demain. En fait, ce que je dis simplement, quand je dis ça, c'est que pour moi, l'ambition d'un chef d'entreprise, ça doit être de construire des entreprises qui dépendent pas de lui, qui fonctionnent au quotidien sans lui. Moi, je l'ai fait dans mes entreprises, d'abord parce que j'aime trop ma liberté, et que si j'ai choisi la vie de chef d'entreprise, c'est bien pour avoir cette liberté. Et si je bâtis des entreprises, c'est surtout pas pour me retrouver esclave, entre guillemets, de mes entreprises. Ça veut pas dire que je travaille pas dans mes entreprises. Ça veut dire que je veux être indépendant de mes entreprises pour un tas de raisons. Entre autres parce que, voilà, quand tu es chef d'entreprise, tu prends des risques. Donc la moindre des choses, c'est que ça t'amène de la liberté. Et par ailleurs, je veux pouvoir démarrer une autre entreprise demain, si j'en ai envie, avec un minimum d'adaptation. Et puis surtout, la deuxième raison, c'est que je pense que c'est bien plus agréable pour mes collaborateurs de pas avoir besoin de moi pour travailler au quotidien. Alors, ils le ressentent pas forcément au début. Au début, ils se disent, mais au secours, moi, je préfère avoir un chef qui est tout le temps là pour partager mes difficultés, etc., etc. Je comprends tout à fait cette envie. Mais en même temps, je pense qu'un collaborateur, dans le long terme, ce qu'il recherche, ou en tout cas, moi je trouve que c'est des bons collaborateurs ceux-là, c'est d'être le plus autonome possible dans son travail et donc de pas être dépendant du boss pour pouvoir travailler au quotidien. Et d'ailleurs, ça rejoint, j'ai fait il y a pas longtemps avec un psychologue du travail un podcast super intéressant qui est pas encore sorti au moment où j'enregistre, il sera peut-être sorti au moment où on publiera cet épisode-ci, qui disait que voilà, dans les composantes essentielles de la motivation, il y a l'autonomie. Et donc, ça tombe bien, parce que travailler à l'autonomie de notre boîte par rapport à nous, ça nous oblige à travailler sur l'autonomie de nos collaborateurs. Et donc vraiment, moi mon rêve, évidemment c'est un chemin et c'est jamais complètement accompli, c'est que mes collaborateurs puissent travailler sans jamais me rendre des comptes. Pourquoi je le fais aussi? Parce que je suis absolument certain que ça assure à la fois la meilleure performance possible pour mes entreprises, parce qu'on est plus performant quand on est autonome, on va plus vite, donc on est plus performant, mais ça assure aussi la meilleure rétention et de mes collaborateurs, c'est-à-dire que quand on est dans une entreprise où on a l'impression de vraiment maîtriser son destin, ben on y reste plus longtemps. Et puis, je pense aussi que pour l'entreprise en général, ça crée la meilleure pérennité possible, la meilleure antifragilité possible, parce que l'entreprise, elle va être fondée sur des individus qui eux-mêmes vont utiliser leur antifragilité, parce que l'être humain, c'est quelqu'un qui est naturellement antifragile, c'est-à-dire qui s'adapte en permanence aux crises, etc., etc. C'est un des fondements de l'antifragilité, de s'adapter aux crises. Et on est fait comme ça. C'est pour ça que la race humaine, elle vit depuis aussi longtemps sur cette planète. C'est cette capacité à s'adapter en permanence. Et donc, si tu arrives à aligner cette capacité de tes collaborateurs à s'adapter en permanence avec la capacité que tu veux de ton entreprise à s'adapter en permanence, eh ben, tu auras la meilleure entreprise possible. Donc, ça veut dire que si je dois intervenir en permanence dans mes entreprises, ça signifie qu'elles sont pas encore mûres pour être antifragiles. Donc, ça veut dire que mon job de chef d'entreprise, c'est de faire mûrir mes entreprises pour qu'elles puissent se passer de moi. Et c'est aussi ce qui va les rendre vendables. C'est pour ça que je dis, tu dois faire en permanence comme si tu devais vendre ton entreprise demain. C'est ce qui te rendra le plus libre possible par rapport à ton entreprise. Et c'est ce qui libérera aussi tes salariés, ton entreprise. Et donc, la bonne question à se poser tous les jours, je le pense vraiment, c'est si demain tu dois vendre ta boîte à quelqu'un qui connaît rien, qu'est-ce que tu dois encore améliorer dans ta boîte pour que cette personne venue de l'extérieur puisse prendre les commandes le plus facilement possible? Et en général, qu'est-ce qu'il faut faire? C'est quoi la méthode pour faire mûrir une entreprise? La première chose, c'est de mettre en place un système de management qui va permettre une délégation infinie, Ce que je veux dire, c'est qu'il n'y a rien qui ne soit pas délégable dans une entreprise. J'en suis absolument convaincu. Donc, premier système à mettre en place, absolument, c'est le système de management. C'est celui qu'on propose dans la formation, le manager essentiel. Et pour que ça marche bien, il faut que tu aies un relais managérial tous les 5 collaborateurs. Pour moi, c'est les 2 premières choses à faire dans une entreprise. Ensuite, c'est de mettre en place un système d'objectifs, parce que sans objectifs communs, on n'arrive pas à faire converger les objectifs. C'est dans la formation management par objectif qu'on apprend à faire ça. Ensuite, c'est de mettre en place un système d'évaluation efficace pour s'assurer que les performances et les attitudes sont en phase avec les objectifs. Si tu n'as pas de système d'évaluation, à quoi ça sert d'avoir des objectifs? Mais ce système d'évaluation, il doit être motivant. Ça ne doit pas être un système de flicage. Et c'est là où la subtilité réside, mais cette subtilité, c'est la clé de la réussite. C'est que ce système d'évaluation, il doit permettre aussi à chaque personne de se développer personnellement. Sinon, elle ne va pas y trouver son compte. Les gens, ils travaillent dans un environnement pour le faire progresser, à condition que ça les fasse progresser aussi, que ça les scale en tant que manager. D'ailleurs, j'écoutais une interview, je me souviens plus où j'ai entendu ça, vachement intéressante, d'un jeune chef d'entreprise qui disait « En fait, mon entreprise, elle existe pour me scaler moi. » C'est-à-dire que pour que mon entreprise soit plus performant, je dois être plus performant, et c'est ça qui m'intéresse. Donc, c'est une vision un peu égocentrique du manager, mais pourquoi pas, du chef d'entreprise, mais pourquoi pas. Et en fait, je me disais, mais en fait, oui, bien sûr, le fait que tes collaborateurs rendent ton entreprise plus performante, ça leur permet à eux aussi d'évoluer. Et quand tu arrives à faire converger les deux, bah, tu as des gens ultra créatifs, ultra performants qui font avancer ton entreprise. Donc, une fois que tu as mis en place tout ça, donc le dernier élément, c'est dont je viens de parler, c'est les entretiens de progrès, qu'on appelle EDP dans nos formations, tu peux alors mettre en place une organisation et un fonctionnement antifragile, c'est-à-dire des réflexes, des délégations, etc., qui vont permettre à tes collaborateurs de prendre des décisions qui sont bonnes pour l'entreprise à ta place. Et puis, tu vas pouvoir de ça faire émerger une culture d'entreprise qui va être tournée à la fois vers la performance, à la fois vers la rétention et à la fois vers la pérennité de l'entreprise. Et donc, ton job, ça devient de préserver et de développer cette culture. Ton job de chef d'entreprise, quand tu as réussi tout ça, c'est juste de t'assurer que la culture de ton entreprise fonctionne et qu'elle fonctionne d'une manière qui rend ton entreprise pérenne. C'est tout. Ça sert même... Enfin, je dirais que la vision, elle est même accessoire par rapport à cette volonté de développer cette culture. Et une fois que tu as fait ça, bah, qu'est-ce qui te reste à faire en tant que chef d'entreprise? Bah, continuer à recruter des personnes qui vont être les bons éléments pour faire fructifier cette entreprise en respectant la culture. Quand tu es à ce niveau de maturité d'entreprise, ton rôle il devient super simple. Tu es le gardien de la culture d'entreprise et tu dois t'assurer qu'elle reste à jour. Et à ce moment-là, effectivement, c'est super simple de vendre ton entreprise à n'importe quel moment, puisque finalement, tu n'es là que pour donner les inflexions stratégiques quand elles sont nécessaires, et encore, de moins en moins souvent, parce qu'en interne, les gens vont être capables de le faire. Par contre, tu vas être là pour renforcer la culture et de temps en temps de dire ben non, là, la culture où vous êtes égaré, etc., etc. Et ça, ça va être ton rôle indispensable que tu vas garder, mais qui te prend très peu de temps. Donc effectivement, à partir de ce moment-là, t'es plus du tout indispensable à ta boîte, en tout cas au quotidien. Voilà pourquoi je dis oui, il faut gérer sa boîte comme si on la vendait demain. Alors pourquoi moi, j'ai pas vendu mes entreprises quand on me l'a proposé? Bon. Première raison, c'est que il y a plusieurs éléments. Un, le chèque, il faut qu'il soit suffisamment intéressant. Moi aujourd'hui, très clairement, hein, tout va bien dans ma vie. Je suis pas désespéré, j'ai pas besoin de vendre ma boîte demain, etc. Mais voilà, peut-être que je pourrais avoir envie de réinvestir dans un domaine, etc., etc. Et donc dans ce cas-là, je pourrais être amené à vendre effectivement une de mes boîtes ou voilà. Deuxième chose, il faut aussi que j'ai le sentiment d'être arrivé au bout de quelque chose et que alors ça c'est éthique, hein, et c'est personnel, c'est pas forcément ton cas et je le comprends tout à fait, mais moi en tant que chef d'entreprise, j'ai besoin de me dire ouais mais ils rachètent, je vends, je sais pourquoi je vends, mais eux ils rachètent pourquoi? C'est-à-dire c'est quoi le projet derrière? Est-ce que ces gens-là, à ma place, ils vont permettre à mon entreprise de vivre, d'augmenter sa pérennité, sa performance, etc. Moi, j'ai quand même besoin qu'il y ait ce sens-là, sinon, pour moi, c'est un peu vide de sens. Donc voilà, faut d'abord que ce soit correct par rapport à la valorisation que je pense que peut avoir mon entreprise. Deuxièmement, il faut que ça fasse partie d'un projet personnel à moi. Et troisièmement, il faut que ça corresponde quand même, mais ça c'est une condition que je rajoute moi, qui n'est pas forcément celle de tous les chefs d'entreprise, qui est, voilà, c'est quoi derrière le projet? J'ai vraiment le besoin que ce projet corresponde à quelque chose. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que quand on m'a proposé ça, il y avait pas ces trois éléments. Et en particulier, je pense à une proposition que j'ai eue, où en fait, l'objectif finalement, c'était un peu de détruire la culture d'entreprise. C'est-à-dire, j'ai senti qu'en introduisant une culture non compatible, ou en coupant en morceaux ce qui fonctionnait bien, eh bien, on était dans une entreprise de destruction de la culture. Donc, oui, j'aurais pu le faire en me disant, bah après tout, je vends la suite, c'est plus moi. Mais en fait, moi, ça m'a paru vraiment étrange et pas bien que le prix de ma richesse personnelle soit lié à la destruction de ce que j'avais créé. Je pense que, mais ça c'est perso, je pense que le pied que je prends vraiment en tant que chef d'entreprise, c'est de faire avancer ma création. Je sais un jour ou l'autre que ça devra s'arrêter, parce que j'aurai atteint un peu la limite d'âge que je me suis fixé ou que j'aurai d'autres projets. Je sais aussi qu'un jour je me dirai, c'est temps de transmettre parce que j'apporte plus assez. Mais voilà, je pense que ce jour-là, il faudra que ça signifie pour les gens qui vont rester dans l'entreprise et pour l'entreprise en général, qu'il y a un nouveau départ, qu'il y a des perspectives ou qu'il y a une certaine continuité. Donc voilà pourquoi, même si je dis il faut être capable de vendre sa boîte du jour au lendemain, ou en tout cas être dans les conditions qui permettraient ça, ça ne veut pas dire qu'il faille le faire à la moindre sollicitation. Et en tout cas, voilà, ça c'est ma partie, c'est peut-être une partie un peu plus personnelle, mais c'est le genre de truc dont on parle dans le ciel. Et voilà, après, il y a plein de chefs d'entreprise qui, dans le ciel, nous disent « Non, moi, ce qui se passe derrière, je m'en fous. » et ça en fait pas de mauvaise personne, c'est juste une autre perspective que la manière dont je vois les choses. Voilà. J'espère que ce que je t'ai dit aujourd'hui, si tu es chef d'entreprise, ça va te permettre de réfléchir, en fait, un petit peu sur ce que tu veux pour ta boîte. Pas sur la vente de ta boîte, mais ce que tu veux construire pour ta boîte. Mais même si t'es pas chef d'entreprise, tout ce que j'ai dit là, à propos du fait qu'il faut être capable de vendre du jour au lendemain, eh bien, ça s'applique parfaitement à un manager. C'est-à-dire que je pense qu'un manager, il doit absolument faire en sorte de faire en sorte que son équipe puisse passer de lui. En fait, on n'y arrive jamais complètement, évidemment. Mais c'est le chemin qui est intéressant. Parce que le jour où ton entreprise peut fonctionner sans toi, ton équipe, pardon, peut fonctionner sans toi, eh ben t'es plus libre. C'est-à-dire que t'es plus tranquille quand tu prends des congés, tu te reposes vraiment. Tes collaborateurs, ils grandissent, ils deviennent plus indépendants, ils deviennent plus autonomes, et donc ils vont être plus performants, ce qui va te permettre toi-même de revendiquer le fait que tu as une équipe performante. Ils vont rester plus longtemps, parce que si tu les contrains et s'ils sont toujours obligés de te demander pour tout, ben finalement, un jour, ils te quitteront. Et toi, tu vas pouvoir travailler sur vraiment quelque chose qui est d'un autre niveau et qui est vraiment plus intéressant, qui est le développement de l'antifragilité de ton équipe, le développement de tes collaborateurs. Alors évidemment, tu seras indispensable pour ça, mais tu seras plus indispensable au quotidien. Ou bien, tu pourras choisir des domaines que tu vas garder où tu es vraiment, vraiment clairement génial par rapport à tes collaborateurs, mais tu pourras y travailler d'une manière plus sereine parce que tu sauras que sur la partie management, etc., eh bien, tes collaborateurs, ils ont moins besoin que toi. Et c'est pour ça que je dis, hein, la méthode, le manager essentiel, c'est une méthode qui te permet de passer moins de 10% de ton temps en management. Et donc de récupérer 90% de ton temps pour faire d'autres choses. Et quand je dis ça, c'est pas du pipeau. On le fait vraiment. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Si cet épisode t'a plu, n'hésite pas à mettre 5 étoiles, ça nous aide vraiment. N'hésite pas à mettre un commentaire positif à propos du podcast. Et n'hésite pas non plus à échanger par mail s'il y a des choses qui t'ont choqué dans ce que j'ai dit, ou au contraire, si tu as eu des déclics, il suffit de nous faire un mail à adélie@outildumanager.com ou cédric@outildumanager.com. Et puis, voilà, on recrute sur le ciel à nouveau. Donc, si ça t'intéresse, n'hésite pas. Je te souhaite une très, très bonne journée et peut-être une très bonne semaine.
Ou alors, excuse-moi, ça m'agace un petit peu de pas avoir retrouvé de tête l'ancienneté des membres du ciel. Donc voilà, j'ai retrouvé la donnée là. C'est 745 jours, l'ancienneté moyenne des membres du ciel. Donc 745 sur 365, ça fait une ancienneté moyenne de plus de 2 ans, ce que je trouve quand même pas mal pour un club de chefs d'entreprise. Bah, alors évidemment, là-dedans, on a des gens qui sont juste passé 3 mois parce qu'ils avaient un objectif particulier à remplir et puis voilà, ils sont restés juste les 3 mois. Puis on a des gens qui sont là depuis le début et qui constituent un petit peu le noyau dur du ciel et voilà. Donc ce que je te propose, si tu as envie de rejoindre cette équipe, encore une fois, c'est de postuler simplement en faisant un petit mail à Adélie ou à moi. C'est un processus très simple. C'est Adélie qui te pose 2-3 questions pour être sûr que ça, voilà, tes objectifs et la proposition du ciel correspondent. Et comme ça, tu peux t'inscrire et ce sera avec grand, grand plaisir qu'on t'accueillera.